magnifique, merveilleuse. Et quand on s'approprie ses promesses, je me rappelle quand l'Esprit de Dieu m'a montré que Ésaïe, ça s'adressait aussi à moi. Avant, je lisais Ésaïe, je ne comprenais rien. Je trouvais que c'était loin, c'était difficile. Et puis, quand le Seigneur a touché mon cœur, quand j'ai reçu l'Esprit qui éclaire, n'est-ce pas, sa parole, eh bien, j'ai commencé à voir, ça c'est pour moi, ça touche mon cœur, ça me parle. Et c'est important d'écouter. J'aimerais qu'on considère quelque chose, un récit qu'on trouve essentiellement dans 2 Rois, chapitre 3, que je vais prendre, c'est un récit historique, évidemment, j'insiste là-dessus, c'est pas autre chose qu'un récit historique dans le contexte, mais bien sûr avec des vérités spirituelles dedans. Mais je vais faire aussi, je vais l'utiliser un peu de manière métaphorique, et c'est juste une façon de présenter quelque chose de complexe avec une illustration concrète. Donc ici, dans Jean chapitre, j'ai tellement l'habitude de prêcher sur Jean qu'il va falloir que je bifurque sur Jean bientôt, hein, sinon je suis mal. Dans 2 Rois chapitre 3, il est question d'un fils d'Akab. Encore. Alors quand on voit fils d'Akab, ouf. Mais il n'est pas question seulement de lui. En fait, c'est un personnage très faible. Il donne l'impression d'être très faible dans ce chapitre-là. Et probablement, il l'était avec les parents, parce que d'après ce que j'ai pu voir aussi, il était fils de Jézabel en plus. Donc il avait non seulement le père, mais la mère aussi, qui était problématique et spirituellement troublée. Et il ne pouvait donc qu'être faible. Très étrange, n'est-ce pas? Combien l'ennemi affaiblit, détruit. Combien les gens sont faibles lorsqu'ils ont été, ils ont rejeté Dieu et ils sont attaqués par l'ennemi, ils sont la proie de l'ennemi, ils sont rendus très faibles et vulnérables. Et on voit là un homme qui pourtant était roi d'Israël, avait un poste important, fils de roi, donc c'est vraiment, c'était forcément, c'est pas comme les présidents de la République maintenant, je veux dire, mais c'était donc, bien sûr de père en fils qu'ils étaient rois. Et donc ils avaient de quoi être forts, de quoi avoir vraiment du pouvoir et de la force, mais ce n'était pas le cas, semble-t-il. Et voilà qu'il a fait alliance, ou c'est plutôt l'autre qui a fait alliance. Il a fait alliance avec Josaphat, le roi de Juda. Vous savez que le territoire, on va dire, d'Israël, le peuple de Dieu, était divisé en deux territoires, Juda et Israël. Et ça, c'était dû au péché de Salomon. Salomon s'est livré bien avant Yoram, s'est livré au péché et ça crée une dissociation. Et j'aimerais d'abord souligner ce point très important, que si vous livrez votre vie au péché, il y a cette dissociation qui vient en vous, il y a cette division, il y a quelque chose qui se divise, qui se scinde dans votre vie. C'est inévitable. Et je voudrais juste avertir chacun, mais avertir particulièrement les jeunes là-dessus, sur l'importance de garder la parole de Dieu dans leur vie, mais pas seulement la garder comme un livre qui conduit leur vie, comme un enseignement qui dirige leurs pas, mais de garder cette parole dans leur cœur, de demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de venir les sauver, les remplir et les animer. Parce que leur vie est forcément scindé à un moment donné, dissocié par le péché. Et le territoire du peuple de Dieu était divisé en deux. Il y avait donc Juda et Israël, un territoire qui s'appelait Juda, dont la capitale était Jérusalem, et Israël, dont la capitale était Samarie. Et voilà que en Samarie, en Israël, juste après Salomon, il y avait un roi qui s'appelait Jéroboam, et donc qui a trouvé une stratégie politique. Il a voulu que le peuple cesse d'aller à Jérusalem pour offrir les sacrifices. C'était l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu était que les sacrifices devaient se faire à Jérusalem. Mais il a pensé, si mon peuple va à Jérusalem, le peuple de Juda, où se trouve Jérusalem, va sympathiser avec ce peuple et le peuple va dire, oh ben nous on va passer en Juda et je vais perdre une partie de mon peuple. Donc il a fait une stratégie qui était contraire à la volonté de Dieu, la parole de Dieu, il a établi les sacrifices en Israël pour que les gens ne n'aillent pas à Jérusalem une fois par an. Ça paraît banal, ça paraît stratégiquement, politiquement correct, ça paraît compréhensible. Mais le problème, c'est qu'il y avait la désobéissance. Et cela semble être appelé le péché de Jéroboam, qui est mentionné à plein d'occasions après dans le cursus du peuple d'Israël. On parle du péché de Jéroboam. Et c'était ça, c'était la désobéissance. Et donc, il a commis cela, et beaucoup de rois après lui ont fait la même chose. Et Joram était l'un de ceux-là, qui a continué dans le péché de Jéroboam. La désobéissance, le fait d'établir des sacrifices là où il ne fallait pas les faire, le fait de ne pas dire aux gens d'aller à Jérusalem pour offrir les sacrifices. Et tout ça, c'est dû à cette dissociation, le péché qui a amené cette séparation, cette division. Mais il s'est allié, ou c'est plutôt Josaphat qui a accepté l'alliance. Et j'aimerais juste présenter ça de manière figurée dans nos vies, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de divisé au début de notre vie. On est tous avec cette division à l'intérieur. Cette division entre ce qu'on pourrait appeler la chair et l'esprit. C'est-à-dire, ce sont deux puissances, deux forces, deux autorités avec un roi, n'est-ce pas ? Parce que Israël et Juda étaient des puissances, eh bien, qui sont dans nos vies et qui agissent dans nos vies. Et la situation là, c'est que Josaphat, roi de Juda, aimait le Seigneur. Il a un modèle dans beaucoup de choses, Josaphat. Il aimait le Seigneur. Il s'est trouvé une fois, j'aime beaucoup sa prière, une fois, une prière toute simple. Une fois, il s'est trouvé dans une situation difficile où l'ennemi était en train d'attaquer. Il n'avait aucune stratégie, aucune stratégie. Et c'est là où le Seigneur nous teste, n'est-ce pas ? Quand on se trouve sans ressources, sans possibilité d'avoir une technique, un moyen stratégique pour échapper. Eh bien, il a fait une prière qui est extraordinaire. Il a dit, Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Notre regard est tourné vers toi. Est-ce que vous êtes trouvé dans des situations où vous ne savez que faire ? Je crois qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui se trouvent dans ces situations. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont cernés. Je me rappelle une ou deux fois m'être trouvé dans des situations où il n'y avait pas d'issue possible. Et j'ai dû crier à Dieu. Je me rappelle aussi quand ma sœur, mon beau-frère était au Cambodge et ma sœur était quelquefois seule. À l'époque, c'était une grande instabilité au Cambodge. C'était quand les enfants étaient petits. Et après, c'était le couvre-feu. Après 8 heures, il ne fallait surtout pas sortir en ville parce que les gens tiraient dans les rues, etc. On pouvait être tué. Donc, son mari était en déplacement pour la société biblique et un des fils était très malade. Un des enfants était très malade avec 42 fièvres ou une fièvre très élevée. Il fallait donc un médecin en situation normale, mais hors de question de sortir pour aller voir un médecin ou d'appeler un médecin qui ne serait pas venu en raison du danger. Eh bien, il restait le Seigneur. Mais le Seigneur était là tout le temps. Et ma sœur m'avait dit, quand on n'a plus les ressources, quand on n'a pas de moyens, de stratégie, eh bien, on crie vraiment au Seigneur. Et le Seigneur répond. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, Josaphat, c'est un homme comme ça. C'est un homme de Dieu, un homme que Dieu a estimé, protégé. Et il le gardait parce qu'il avait une confiance en Dieu. Mais le problème de Josaphat, c'est qu'il a fait alliance avec l'autre partie. Il était donc de Juda et il a fait alliance avec Israël, avec Joram, fils d'Akab. Et là, le Seigneur lui a reproché ça. Le Seigneur a envoyé un jour un prophète pour lui dire « Tu vas faire alliance avec les ennemis de l'Éternel ». Et là, il y a un avertissement pour chacun d'entre nous, pour moi en premier, pour chacun d'entre nous, de ne pas faire d'alliance avec ce qui n'est pas de Dieu, de ne pas s'associer, de ne pas défendre ou s'associer ou aller dans le même combat avec quelque chose ou quelqu'un qui s'oppose à Dieu. Et autour de nous, on a quelquefois des gens qui sont des ennemis de Dieu, manifestes, qui sont des blasphémateurs, qui sont des gens sympathiques par ailleurs. Mais le Seigneur nous demande clairement de faire très attention, de ne pas avoir d'alliance avec ces personnes. Et le problème de Josaphat, c'était ça. Et dans un sens, dans notre vie à l'intérieur, on essaye de s'accommoder avec une alliance entre ce qui est sacré chez nous, ce qui a été touché par Dieu, et avec la chair, n'est-ce pas ? On essaie de faire une alliance en disant, ben voilà, puisqu'il y a le côté spirituel, ça va aller. Puisqu'il y a le côté de Dieu, eh bien, je vais pouvoir dominer sur la chair, je vais pouvoir vivre une vie à peu près correcte. Et c'est probablement ce que Josaphat pensait. Il pensait, bon, Joram, comme Akab, son père, sont des gens qui sont ennemis de Dieu, mais mon contact va être bénéfique. Mon contact va l'aider à s'orienter vers Dieu. Je vais lui conseiller, surtout que c'est un homme assez faible, Joram, comme Akab d'ailleurs était faible. C'était Jézabel qui était forte. Mais je vais le conseiller, je vais le guider, je vais l'orienter vers Dieu, je vais avoir un effet bénéfique. Non, Josaphat, il avait tort. Et dans votre vie, si vous ressentez ce conflit que l'apôtre Paul décrit si bien à la fin de Romains 7, que vous voulez faire le bien, vous avez des bonnes dispositions parce que vous avez accepté que la parole de Dieu, que Dieu a quelque chose ou quelqu'un qui peut nous donner, qui est bon, qui veut nous faire marcher d'une manière droite, vous acceptez que c'est droit. Mais d'un autre côté, il y a cette puissance en vous qui vous pousse à faire le mal. Vous trouvez que vous voulez faire le bien, n'est-ce pas ? C'est ce que décrit l'apôtre Paul dans Romains 7 encore, la fin de Romains 7. Ce n'était pas son expérience au moment où il écrivait. C'était l'expérience qu'il avait tant connue en tant que jeune juif. On lui avait enseigné la loi de Dieu, comme à tous les enfants juifs, les garçons juifs. On lui avait enseigné que c'était important d'obéir à Dieu, de faire plaisir à Dieu. Et toute sa vie, il a voulu le faire. Même avant sa conversion, il était zélé pour Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Mais il y avait quelque chose de plus fort qui l'entraînait vers le mal. Et il sait que la loi montre ce qui est bon, mais elle ne donne pas la force. D'ailleurs, il dira même dans 1 Corinthiens 15 que la loi excite le mal en nous. C'est vrai que si on vous dit que quelque chose est interdit, ça vous donne plus envie de le faire que si on ne vous dit rien sur la chose en question. En tout cas, cette alliance semble impossible entre la chair et l'esprit. Et en fait, c'est vrai que notre corps ne peut pas être dirigé par notre esprit. Parce que finalement, c'est le corps qui dirige notre esprit. Et nous sommes ainsi faits à cause du péché originel, que le corps a pris la domination de notre vision, n'est-ce pas ? Quand Adam et Ève ont pris le fruit interdit, ils ont perçu qu'ils étaient nus. Le corps a commencé à parler, le corps a commencé à devenir central. Et nous sommes dans une société qui est centrée sur le corps. On vous dit, toute la publicité presque concerne le bien-être, le fait d'être beau, n'est-ce pas ? D'être bien, avoir des crèmes, n'est-ce pas ? Pour cacher les rides. Avoir tout un tas de produits qui vous donnent qui donnent aux gens l'impression que vous êtes beau. Et si vous êtes moche, vous pouvez encore, il y a des stratégies, il y a des gens qui savent très très bien décorer pour que vous passiez pour quelqu'un de beau. Et le vieillissement est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Je vous déconseille ma maladie si vous voulez paraître jeune tout le temps parce que ça vous donne un coup de vieux, ça je vous garantis. Mais c'est toujours lié vers le corps. Il faut être sportif maintenant. Il faut être sportif, il faut être taillé d'une certaine façon. Et tout est orienté vers le corps qui va diriger l'esprit. Et cette alliance, alors que c'est l'esprit qui devrait diriger le corps, n'est-ce pas ? Cette alliance est impossible, donc c'est finalement le corps qui dirige l'esprit. Akab, c'est ce qu'il connaissait, la femme. C'est sa femme qui dirigeait son esprit. C'est sa femme qui dirigeait sa façon de gouverner, sa façon d'agir. Il obéissait au doigt et à l'œil à sa femme. Et voilà que Joram est la même chose, mais Josaphat essaye de concilier les deux. On voit... Vous lirez ce chapitre qui est intéressant de 2 Rois, chapitre 3. Il est intéressant à lire sur le plan stratégique. On voit que la raison pour laquelle ils vont faire alliance là, à ce moment-là, c'est que le roi Joram, donc le fils d'Akab, il découvre que un des peuples, Moab, qui était soumis à un tribut, à une redevance, eh bien, refuse, après la mort d'Akab, de continuer de payer. Et voilà que Joram en voit sa faiblesse, parce que ceux qui payaient des impôts à son père décident, tiens, c'est le fils maintenant, c'est un faiblard, on ne va pas lui payer, on arrête, on se libère. Et on voit que Josaphat, lui, il a des peuples aussi, apparemment Édom, c'est des descendants d'Ésaü, qui sont soumis à lui. Pourquoi ? Parce que Joram lui dit, est-ce que tu veux venir avec moi lutter contre Moab parce que Moab ne me paye plus ? Donc on va agir. Joram lui dit, Josaphat lui dit, mon peuple comme ton peuple, etc., nous irons avec toi. Quelque chose de très dangereux. Entre parenthèses, Ruth a dit ça. La Ruth, la Moabite, a dit ça à sa belle-mère. Mais là, c'était dans le bon sens. Elle a dit, mon peuple sera ton peuple, mon Dieu sera ton Dieu. Elle, c'était honorable. Mais dans le sens ici de Josaphat, c'était une erreur. Et Joram lui dit, c'est pas écrit ça, mais on voit qu'il est soulagé que Josaphat a accepté parce que tout seul, il avait peur. Et il dit à Josaphat, mais je trouve ça un peu gros, il dit, par quelle route on va l'attaquer ? Autrement dit, apparemment, il n'avait aucune stratégie militaire et il a dû demander à Josaphat des conseils. Josaphat lui dit, on va passer par le désert d'Édom. Et au passage, il ne s'est pas dit, mais on le voit après, il a pris le roi d'Édom à sa suite. Donc, ils étaient trois rois. Mais Josaphat, dans ce que j'ai lu en tout cas, est bien dominé sur le peuple d'Édom. C'est-à-dire, Édom était soumis à Josaphat. Mais le peuple de Moab n'était pas soumis à Joram. Et on voit que donc ce qui était fort, c'était Josaphat. Et Josaphat incarne la présence de Dieu dans cette affaire. Mais l'alliance n'est pas possible. Et l'alliance n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc, ils arrivent à un certain nombre de jours de marche vers Moab. Et voilà, il n'y a plus d'eau. Et Joram, encore en train de paniquer. Il commence à paniquer, il dit, ça y est, c'est Dieu qui a encore organisé ça. Il a réuni les trois rois pour les faire mourir de soif dans le désert, pour les faire mourir. Vous savez, il avait conscience de Dieu, que Dieu, parce qu'il avait vu comment Dieu avait sévèrement jugé ses parents. Et il savait que Dieu était réel. Vous savez, c'est comme Hérode qui a mis pour garder Pierre, 16 soldats, d'accord, pour garder Pierre. Et il savait qu'il y avait un risque que Dieu le libère. Les disciples étaient dans la chambre en train de prier pour Pierre, et quand il est arrivé, parce qu'il avait été libéré de prison, quand la servante a dit, mais c'est Pierre qui est à la porte, ils ont dit, mais t'es folle, c'est pas possible, il est en prison. Ils étaient en train de prier pour sa libération. Et quand on dit qu'il est libéré, la personne qui l'a dit, on dit elle était folle. Tandis qu'Hérode, lui, il le croyait, il le savait que ça risquait. C'est pour ça qu'il avait mis 16 soldats. Vous savez que les gens qui sont troublés spirituellement, ils savent que la puissance de Dieu est réelle. Et cet homme savait tout le long, Joram, qu'il n'était pas en règle avec Dieu. Mais comment pourrait-il y avoir une alliance entre ce qui est saint, ce qui est attaché au Seigneur et ce qui n'est pas attaché au Seigneur ? Joram donc commence à paniquer en disant « C'est Dieu qui nous a ramenés ici et puis voilà, maintenant il va nous faire mourir. » Josaphat n'est pas troublé par ça du tout. Il dit « Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qu'on peut consulter ?» Et il y avait dans cette ville Élisée. Et Élisée, le prophète, qui avait été le disciple d'Élie, eh bien, il savait très bien parler directement aux gens. Et il a dit « En fait, je ne tiendrai pas compte de toi, Joram. » si tu n'étais pas accompagné de Josaphat. Et le Seigneur sait que l'homme sans l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre, ne peut pas vivre une vie spirituelle. Et il voit chez les hommes et les femmes, je pense, leur désir de vivre bien, de vivre selon les lois de Dieu. Et parce qu'il y a quelque chose de Josaphat en nous, le Seigneur a eu pitié de nous. Vous savez que Saul de Tarse, je pense, était sincère. Il le dit lui-même, était irréprochable, à l'égard de la loi. Et Dieu a vu que cet homme était sincère dans ce qu'il voulait. Et il l'a choisi, il l'a rempli de l'esprit pour le transformer. Mais on va voir cette étape plus tard. Et donc Élisée a dit, c'est parce que Josaphat est là que je vais vous donner la parole de Dieu. Et il a donné la parole de Dieu, une parole qui s'adresse à nous aussi. Il a dit au chapitre 3, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. » Quelque chose qui s'adresse solennellement à nous, qui sommes dans, quelquefois dans cette situation de conflit entre ce qui est bon, Josaphat, et ce qui est de la chair, Joram. Le Seigneur s'adresse à nous parce qu'il voit qu'on veut obéir à la loi. Si vous avez le désir et vous n'avez pas le pouvoir ce matin, vous pouvez vous présenter devant Dieu. Dieu va vous donner une parole ce matin, et je le crois réellement, que si vous êtes sincère, Dieu va s'occuper de votre cas aujourd'hui pour vous donner quelque chose de nouveau. Mais l'ordre ici, c'est, premièrement, il y aura l'accomplissement d'une promesse, mais d'abord, il faut creuser des fosses pour retenir l'eau. Est-ce que dans votre vie, vous êtes prêt à creuser des fosses pour que l'eau reste, pour que vous ayez de l'eau à boire? Ou est-ce que vous dites, oh non, creuser des fosses, je ne peux pas. Lire la Bible, je ne peux pas. Ce n'est pas que le Seigneur vous dit, voilà, il faut que vous lisiez, quand vous aurez lu pas mal, je pourrais faire quelque chose dans votre vie. C'est que si tu dis, voilà, moi, je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas m'intéresser à Dieu, je veux continuer mes activités, mais je veux qu'il me sauve, qu'il fasse quelque chose, j'en ai marre de ce que... Ce n'est pas sérieux. Il voulait que le peuple s'arrête et commence à creuser des choses qui peuvent retenir l'eau. Dans Jérémie chapitre 2, il reproche à son peuple d'avoir des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce qu'on est prêt à faire en sorte de dire, Seigneur, à partir de ce matin, je veux être sérieux avec toi. Je veux te connaître, j'entends des choses sur toi, il y a des choses que je désire, mais j'arrive pas, j'arriverai pas. Mais je veux creuser des fosses pour retenir l'eau. Cette eau que tu me donnes pour me désaltérer, j'ai soif. Et non, tu n'es pas venu. Tu ne m'as pas mis dans cette situation pour que je meure, mais tu m'as mis dans cette situation pour que je creuse des fosses qui retiennent l'eau. Est-ce que ce matin vous êtes prêt à faire ça? Et effectivement, le Seigneur a envoyé la pluie, et quand vous lisez le texte après, il y avait de l'eau un peu partout sur le territoire, et Moab s'est levé le matin, et avec le soleil du matin, ils ont vu des reflets, bien sûr le Seigneur a perturbé leur vision aussi, eh bien ils ont vu comme du sang et ils ont dit, oh ben c'est bon, ils se sont battus entre eux, le problème est réglé, ils sont trois rois, ils se sont disputés, ils avaient donc déjà une réputation probablement d'être potentiellement en conflit, et donc ils se sont battus et Moab se sentait en confiance et ça a permis à Joram, aux trois rois d'attaquer Moab. Mais c'est parce qu'ils ont obéi en faisant ces fosses. Je ne sais pas qui est intervenu pour qu'ils obéissent, mais je suis sûr que Josaphat a dit, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'aura pas l'accomplissement. Et Moab a été détruit, mais pas si facilement que ça. Mais je vois là le message d'une destruction. Le Moab avait une emprise sur Joram, et c'est ça qui était insupportable. Parce que quand il a dit « Je ne paierai plus d'impôts », il s'est placé supérieur à Joram. Vous comprenez, avant il était soumis au père de Joram, mais maintenant il se place en position supérieure. Et donc il a de l'emprise sur Joram. Et là, le Seigneur a changé les choses, a inversé les choses de manière forte, mais il fallait obéir. Et je pense que Josaphat a dit « On doit obéir à la parole de Dieu ». Est-ce que vous êtes prêt à obéir à la parole de Dieu? Ou est-ce que vous dites, je mets ça plus tard? C'est une stratégie qu'on utilise si facilement. je verrai ça plus tard, je ne vais pas régler ce problème aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai trop de choses à penser. Ou est-ce que vous dites, ouais, je vais commencer à creuser. Je vais commencer à faire ce que la parole de Dieu me dit de faire. Je vais mettre ma vie en règle avec Dieu. Il a été dit que Moab serait livré, mais qu'il fallait détruire toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite. Il fallait abattre tous les bons arbres, il fallait boucher toutes les sources d'eau et ruiner les meilleurs champs. Et on se dit, mais non, le Seigneur ne va pas demander ça quand même, que dans ma vie, je renonce à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai gagné. Si, si le Seigneur vous l'a dit, c'est important. Le Seigneur ne le dit pas forcément, mais là, il l'a dit spécifiquement. Il y a des gens qui ont dû renoncer à leur formation pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont dû renoncer à une carrière potentiellement intéressante. Nous avons un jeune frère ici, je ne donnerai pas son nom comme c'est mis sur Internet, mais qui se destinait potentiellement à une carrière brillante de footballeur. Et le Seigneur l'a interpellé à un moment et maintenant il a dit que c'est clair, c'est fini pour ça. Il est tellement content que le Seigneur l'a protégé d'une brillante carrière de footballeur professionnel. Bien sûr, il aurait gagné beaucoup d'argent. Je doute qu'il gagne beaucoup d'argent dans l'avenir avec le Seigneur. Bien sûr, il allait gagner la célébrité. Mais je doute qu'il gagne la célébrité avec le Seigneur. Mais il a obéi. Il a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et ça, c'est important de savoir que dans certains cas, le Seigneur dit « tu arrêtes ». Vous savez, quand le Seigneur vous touche et le Seigneur vous travaille, quelquefois, il va mettre le doigt sur quelque chose. Il va dire « voilà, tu tiens beaucoup à ça ». Ce n'est pas systématique. Hein. Certains disent c'est systématique. Non, ce n'est pas systématique. Mais quelquefois, le Seigneur va toucher quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ont... Leur problème, c'est qu'ils sont beaux. C'est un vrai problème. C'est un problème quand vous donnez au Seigneur et toute votre vie... J'avais un ami qui était comme ça. Il était tellement beau. Il avait tellement une facilité avec les filles. Il s'est converti. Paf! Du jour au lendemain, il devait renoncer à tout ça. Il l'a fait pour le Seigneur. Le Seigneur l'a puissamment utilisé parce qu'il a renoncé à ça. Ça veut dire pour certains que le Seigneur va dire peut-être « ça te va bien ton look ? Tu as vraiment un look qui te vient bien ? Eh bien, je voudrais que tu le changes totalement. » Ouf ! Ah non, Seigneur, c'est bon, c'est correct. C'est pas provocant, c'est pas mauvais, il n'y a rien de mal à ça. Le Seigneur ne dit pas qu'il y a du mal. Il te dit simplement, est-ce que ça je peux toucher? Est-ce que ça je peux l'enlever? Et je te demande de le faire. Et ceux qui le font sont bénis. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ceux qui le font sont bénis. Quand tu es prêt à dire, Seigneur, ce n'est pas un sacrifice, c'est juste de l'obéissance. Si vous le prenez pour un sacrifice, le Seigneur ne veut pas vos sacrifices. Il en a horreur des sacrifices. Il en a eu trop. Mais c'est ça que je veux toucher dans ta vie. Et tu dis que c'est bon, c'est vrai que c'est bon. Mais je ne veux pas que tu le... Ce n'est pas ça que j'ai en projet pour toi. Certains, je le dis souvent, disent que leur sale caractère, c'est très bon, parce que le Seigneur peut utiliser cette personne ou avec un sale caractère pour... Être missionnaire, quelle horreur! Vous pensez que Dieu cherche des gens avec un sale caractère pour être missionnaire? Ça ne dit pas grand-chose sur les missionnaires. Mais on dit ça parfois parce qu'on dit qu'ils vont faire face à des situations difficiles, ils auront de la personnalité. Non, le Seigneur est prêt et demande à dire, est-ce que tu es prêt à détruire ton caractère? Oui, tu as construit ce caractère pour te protéger dans ton enfance contre les agressions. Oui, tu as construit ce caractère, cette personnalité, c'est le résultat de tout un tas de souffrances et de luttes. Mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je renonce ce matin à cela et je veux être dans l'obéissance parfaite. Je veux être prêt à abandonner ça. Est-ce que moi, je suis prêt à ça? Je sais que c'est difficile. Je sais que quand ils ont abattu les arbres pleins de fruits, ils ont dû se dire, c'est du gâchis, c'est du gaspillage. J'imagine même, je n'en sais rien, ce n'est pas écrit, mais je peux imaginer Joram qui dit à Josaphat, mais enfin, c'est du gaspillage. Dieu ne veut pas du gaspillage. Et je peux imaginer, j'insiste là-dessus, c'est imaginaire, ce n'est pas dans la Bible, que Josaphat lui dit, mais Dieu l'a dit, donc nous allons le faire. Fallait boucher les sources d'eau. Là aussi, pourquoi le Seigneur demande ça? Le Seigneur sait ce qu'il fait et ce qu'il demande. Et il y a des sources d'eau dans votre vie qui doivent être bouchées. Comment voulez-vous suivre le Seigneur quand vous avez une autre eau qui vient vous désaltérer aussi? Quand vous avez des lectures, des films ou des musiques qui sont douteuses, qui sont troublées, que vous abreuvez à cette eau-là et vous dites « mais moi je veux aussi l'eau du Seigneur parce que j'ai peur pour l'éternité, etc. » Le Seigneur veut que vous puissiez boucher cela. Et il demande à vous de le faire. Il ne dit pas « je vais le faire ». Là, il demande à le faire de vous-même. Vous savez que dans votre vie, il y a des choses que vous devez brûler dans vos affaires. Vous savez qu'il y a des choses dont vous devez vous séparer. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez détruire. Le Seigneur vous demande d'obéir, et si vous obéissez, vous serez béni. Vous verrez Moab qui est assujetti, qui ne domine plus sur votre vie, qui n'est pas en train de vous narguer, de vous contrôler en disant « tu me demandes un impôt, mais je ne te payerai pas, parce que je suis plus fort que toi. » Et vous savez combien c'est vrai. Vous savez que quand vous êtes dominé par le péché, vous pouvez dire « j'arrête, j'en ai marre, je vais lutter contre l'alcool, je vais lutter contre tel ou tel problème, j'en ai marre, j'en ai assez. » L'alcool se rit de vous en disant « tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui me payeras un impôt, c'est pas moi qui te payerai un impôt. » Mais le Seigneur vous dira quoi faire aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « je vais prendre ces bouteilles et dire au nom de Jésus, je renonce à ça, au nom de... » Parce qu'ils ont entendu que dans un témoignage, quelqu'un l'a fait, mais ce n'est pas comme ça. On ne réplique pas ce que quelqu'un d'autre a vécu. Le Seigneur va vous dire quoi faire, et vous obéissez. Dans certains cas, c'est une question de pardon. Dans certains cas, quand vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, il vous dit tout de suite, il vous montre la personne à qui vous n'avez pas pardonné. Et vous pensez, mais il n'y a pas de rapport avec mon problème. Bien si, le manque de pardon, c'est une désobéissance à Dieu. Et on dit souvent, mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. On rationalise. On dit, mais ce n'est pas possible que Dieu demande de boucher des sources d'eau. C'est précieux, une source d'eau. Un champ, c'est merveilleux. C'est lui qui fait pousser les choses dans les champs. Il me demande de détruire ça, mais ce n'est pas possible. Eh bien, le Seigneur vous demande de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et un manque de pardon, comme je dis souvent, crée du mal chez vous, pas chez la personne qui n'est pas pardonnée. Et ça crée quelque chose à l'intérieur qui reste, qui grandit, et qui met du trouble dans vos vies, qui peut vous pousser à des comportements, à des problèmes spirituels qui sont profonds. Mais vous savez, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas la prochaine fois qu'on a un invité et qu'on va faire un appel. C'est aujourd'hui. Le jour où vous pouvez être délivré des compromis. Le jour où vous pouvez vous donner au Seigneur et de dire en rentrant chez vous, Seigneur, je me donne à toi, je sais pas ce que tu vas me demander, mais je veux le faire parce que je t'aime. Ils ont obéi, le Seigneur a fait ce qu'il a promis. Ça, je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Que de dire qu'ils ont obéi, c'est important de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais de dire que Dieu a fait ce qu'il a promis, c'est une banalité. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il a promis. Il est fidèle, comme on l'a chanté. Mais le roi de Moab s'est sauvé. Il devait être tué, anéanti. Ils ont fait pas mal de choses, mais il a échappé, ce roi. Et il est allé faire une atrocité. Il a pris son fils et il l'a sacrifié sur la muraille. Sous ce qui restait de la muraille. Je pense que c'était sous ce qui restait de la muraille, en tout cas au vu de tout le monde. Comme il a vu qu'il était pris, il a pris son fils et il l'a sacrifié. Une abomination qui a bouleversé, qui a choqué. Mais vous savez que le péché, lorsqu'il est pris, il veut un sacrifice. Il veut le sacrifice d'un fils. Mais le message merveilleux de l'évangile, et c'est là où on revient à l'évangile de Jean, n'est-ce pas, mais les autres évangiles aussi, c'est que le fils a été donné. Oui, le péché réclame le sang d'un fils innocent. Le péché dans votre vie réclame la mort d'un enfant innocent, un enfant même grand innocent. Vous savez que le péché dans la vie des gens, c'est ça qui fait souffrir les autres. Combien d'enfants souffrent à cause du péché de leurs parents? On est une des sociétés, on parle des sauvages dans les tribus très loin, des tribus qui sont primitives, on parle de ces tribus comme faisant des actes odieux sur les enfants, etc. On parle de sociétés qui auraient des pratiques de sacrifice d'enfants. Mais vous savez, moi j'en connais une, c'est l'Europe. Le sacrifice d'enfants n'est jamais autant pratiqué qu'en Europe. C'est une des abominations de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis aussi. On sacrifie les enfants sur l'autel de l'égoïsme, sur l'autel du plaisir des parents. Les enfants sont sacrifiés. On sacrifie les enfants avant qu'ils naissent parce que on a des droits, on a des libertés. Voilà une société qui pratique le sacrifice des enfants. Et donc cette abomination était... Mais dans un sens, c'était une déclaration. Et c'est une déclaration. Le péché réclame le sang des innocents. Et à la croix du calvaire, Jésus a pourvu le Fils qui meurt, qui pourrait mourir à cause du péché. Et c'était la symbolisation faite avec haine, faite avec dépit, faite sans la présence de Dieu. C'était la symbolisation de ce qui allait se passer à la croix du calvaire. Parce que ce qui allait régler la situation définitivement, la victoire, c'était ça. C'était ce Fils qui était mort. Et le Seigneur va établir les choses dans vos vies grâce à la mort de Jésus sur la croix. Il y a un frère qui a écrit cette semaine, qui a demandé, c'est une question très intéressante. Il a posé une question concernant la formation que l'apôtre Paul, comment Paul a donné une fonction à Timothée. Et j'ai répondu que je ne pense pas que c'est que Paul lui a donné une fonction. Je pense que Timothée a manifesté cette fonction. Quand il lui a dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère », eh bien, Timothée le faisait déjà. C'est juste une exhortation. Et je lui ai dit que Dieu a créé la lumière le premier jour. Il a créé le soleil le quatrième jour. 3 jours et 3 nuits après. Et la lumière du soleil, si on vous dit pourquoi il fait clair dehors, vous allez dire c'est parce qu'il y a un soleil. Mais Dieu n'avait pas besoin du soleil pour qu'il y ait la lumière. La lumière a été créée avant le soleil. 3 jours et 3 nuits avant. Et la mort de Jésus, 3 jours et 3 nuits avant sa résurrection, c'était la lumière dans votre vie. La lumière vient dans votre vie grâce à la mort de Jésus-Christ. Et 3 jours plus tard et 3 nuits plus tard, il y a la résurrection qui permet la manifestation, qui permet de voir la lumière ou l'origine de la lumière, le soleil. Et dans vos vies, c'est la même chose. Le Seigneur va agir dans vos vies profondément grâce à sa mort sur la croix. Et comme il a été 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, eh bien, la lumière va apparaître grâce à sa résurrection, n'est-ce pas? Et c'est ça le message de l'Évangile. Ici, il y a l'Évangile. Vous pouvez lire tout l'Ancien Testament, vous trouverez l'Évangile partout. Mais que l'Évangile soit vécu. Qu'on puisse trouver l'Évangile dans cette Église. Que jamais, jamais, il y ait quelque chose qui nous sépare de l'Évangile, de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si ce matin, Dieu vous a parlé par le Saint-Esprit, alors répondez. Ne dites pas plus tard, mais répondez. Dites, Seigneur, je veux... Dans cette vie, dans ma vie, j'ai un conflit. Je veux faire quelque chose, mais il y a quelque chose de plus fort qui m'empêche de le faire. Eh bien, demandez au Seigneur, Seigneur, règle cette situation. Et je vous dis que le message d'Éphésiens chapitre 2, qui est certes consacré à parler de l'unité que Dieu fait pour le peuple de Dieu entre les Juifs et les non-Juifs. Vous savez, en Jésus-Christ, il unit ceux qui sont du peuple juif à ceux qui ne sont pas du peuple juif en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Eh bien, vous lisez Éphésiens chapitre 2 et vous voyez qu'en Jésus, il enlève, il brise le mur de séparation. Eh bien, ce mur de séparation, il le fait dans votre vie entre ce qui est pour Dieu et ce qui n'est pas pour Dieu, ce qui est de la chair. Il enlève ce mur de séparation, cette scission, cette division, et il fait une unité qui fait que votre vie de corps, de corporel, se soumet à l'Esprit de Dieu. Et vous vivez dans la liberté de l'Esprit, non plus en accomplissant les désirs de la chair, mais en accomplissant les désirs de l'Esprit. Car les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Il en est ainsi, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Non, ce n'est pas votre volonté, c'est la sienne. Et Jésus a dit à son Père, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Est-ce que ce matin, vous êtes prêt à dire ça? Est-ce que ce matin, vous avez pris cette décision sérieusement? Eh bien, si c'est le cas, vous ne laissez pas le soleil se coucher, non pas sur votre colère cette fois-ci, mais sous cette décision. Vous réglez ça avec Dieu chez vous et vous donnez votre vie. Et le Seigneur va agir dans votre vie. Amen. J'aimerais qu'on chante un chant, peut-être le chant « Attaché à la croix pour moi ». Et pendant ce chant, où on pense à Jésus qui était attaché sur la croix pour nous, eh bien on donne sa vie au Seigneur, on la redonne au Seigneur. On donne un domaine de notre vie qu'on n'a jamais laissé au Seigneur. Un domaine où on a été victime peut-être, mais le Seigneur veut prendre contrôle de cette situation. Il veut prendre contrôle de votre caractère, de votre personnalité, de vos tendances, de vos addictions. Et ce matin, c'est le moment pendant ce chant de venir au Seigneur, de dire dans le silence de votre cœur, « Seigneur, je réponds, je me donne à toi. » Amen. On va se lever et que vous le faites dans votre cœur et que je le fasse aussi dans mon cœur.